Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un fait qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à FRIC, la vulnérabilité SSL qui vient d'être découverte. Et pour discuter de cela, eh bien, nous avons aujourd'hui Éric Leblond.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Salut.
Nicolas Ruff.
Salut.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors messieurs, FRIC, pourquoi ce nom ?
C'est un acronyme, Factoring RSA Export Attack Keys. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de logo, donc ça, c'est comme un peu un échec.
Ouais, c'est un peu dommage. J'aimais bien Caniche, moi.
Et Eric, selon toi, le FRIC, pourquoi ?
C'est parce que c'est chic comme attaque.
Et alors, par contre, là, tu as un accent à chier parce que c'est pas... C'est FRIC. Enfin, je sais pas comment on prononce, mais
ouais.
C'est un monstre en anglais.
Bah, attends, il y a des Français dans l'équipe. Donc on a le droit d'avoir un accent complètement pourri quand on dit FRIC.
Alors, de quoi il s'agit exactement ?
En fait, la vulnérabilité est assez simple. C'est que depuis le début de la guerre froide, la cryptographie est considérée par les États-Unis comme une arme de guerre. Donc il y a des lois très contraignantes sur l'exportation. Donc les plus vieux auditeurs se souviendront d'avoir téléchargé le High Encryption Pack pour Windows NT, par exemple, ou dans Java, il y a une deep crypto que tu peux remplacer par une version US qui contient des algorithmes non affaiblis. Et donc, toutes les suites... En gros, dans SSL, tu as des suites de chiffrement qu'on appelle export et qui supportent des clés de RC4 de 40 bits et des choses comme ça. Jusque-là, pas vraiment de problème parce que la plupart du temps, ces suites sont désactivées. Sauf que en fait, il y a un petit bug d'implémentation qui fait que si tu demandes pas une suite export, le serveur peut quand même te dire si moi j'ai envie d'utiliser une suite export. Et donc à partir de là, un attaquant qui est en position de man in the middle peut downgrader en fait ta connexion vers des suites de chiffrement qui sont extrêmement faibles.
D'accord. Donc on est sur le même type de vulnérabilité que Poodle.
Pas tout à fait, mais bon, oui, pour simplifier, on peut dire que c'est la même chose. Enfin, c'est du downgrade. Alors, il y a quand même quelques trucs assez rigolos, mais bon, là, je vais faire que paraphraser les infos que tu peux trouver en ligne sur le blog Cryptography Engineering, le blog de Matthew Green. Il y a quelques trucs rigolos dans cette attaque, c'est que, dernière nouvelle, 35% de l'Internet était vulnérable. Parce qu'en fait, les serveurs d'Akamai sont vulnérables et donc en fait, comme tout le monde passe par un Content Distribution Network aujourd'hui, ça fait pas mal de dégâts. Et l'autre truc qui est rigolo, c'est que pour que l'attaque fonctionne, il faut quand même que tu sois capable de casser les clés en temps réel. Même si tu as réussi à négocier du RSA 512, faut quand même que tu puisses casser et factoriser du RSA 512 quasiment en temps réel pour que l'utilisateur se rende compte de rien. Et en fait, la blague, c'est que, en théorie, les clés sont censées être différentes à chaque connexion. Mais en pratique, comme tirer des clés RSA, c'est quand même assez coûteux. Il y a pas mal d'implémentations comme Apache qui réutilisent les mêmes clés pendant un certain temps une fois qu'ils les ont tirées. Donc ça aggrave quand même considérablement le risque lié à cette attaque.
Donc, une attaque qui est assez difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut non seulement être en position de faire un man in the middle, mais en plus pouvoir déchiffrer en temps réel.
Voilà. Oui, enfin, tu as besoin de déchiffrer pour une connexion sur un serveur donné, tu as besoin de déchiffrer une fois. Après, tu as la clé qui va être utilisée pendant un certain temps pour toutes les connexions à ce serveur.
Donc en fait, tu n'as pas besoin de en temps réel, entre guillemets, tu te connectes une première fois au serveur, tu obtiens la clé t'as une négociation avec qui met en œuvre une clé RSA de 512 bits, tu factorises cette clé. Ça peut te prendre 8 heures. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas déchiffrer le trafic parce que tu n'as pas accès au master secret qui est utilisé entre le client et le serveur. Mais une fois que tu as factorisé la clé de 512 bits, et ben, tu vas pouvoir déchiffrer de façon tout à fait simple et aisée quand tu es en man in the middle l'ensemble des communications, des communications en cours. Ou celle à venir pendant une durée de temps déterminée entre guillemets uniquement par la configuration du serveur web au moment s'il y a un paramétrage pour recycler, pour renouveler entre guillemets cette clé RSA de 512 bits.
Donc pour résumer, l'impact de cette vulnérabilité, est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est
L'impact, il est assez catastrophique à partir du moment où l'attaquant est en position de main in the middle. Par contre, si tu n'es pas en position main in the middle, tu ne peux pas faire de downgrade et donc c'est réglé.
Bah, je t'ai fait le chiffre pour éviter les attaques main in the middle.
C'est déjà un chiffre.
Non, bah c'est le principe qui est dommage dans cette attaque, c'est que quand même, généralement, on utilise le SSL pour éviter le man in the middle, et que c'est là, justement, c'est ce cas d'attaque-là où on a un problème.
Ah. En fait, le problème, c'est que les gens partaient du principe avant que les attaques man in the middle étaient quand même assez peu probables, sauf dans des cas tout à fait particuliers de hotspot Wi-Fi ou de chambre d'hôtel. Mais aujourd'hui, tu peux plus vraiment avoir confiance en personne.
Et en fait, ce qu'il faut vraiment savoir ici, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la faille, elle est, de ce que j'ai compris, elle est présente. Il faut qu'elle soit présente simultanément au niveau du serveur, et donc que le serveur supporte des ciphers de type export, mais aussi qu'il y ait un support de ces ciphers faibles du côté du client et un bug au niveau des librairies clients. En l'occurrence, le Secure Transport du côté Apple et OpenSSL. Donc, on est quand même dans une situation où il faut que clients et serveurs doivent être vulnérables.
Oui, mais à partir du moment où OpenSSL est vulnérable, c'est réglé, quoi.
Oui, parce qu'on le retrouve de part et d'autre.
Mais OpenSSL est vulnérable et en fait, ce qui est rigolo, c'est que si tu regardes en fait leur avis de sécurité du mois de janvier. Il parle du CVE 2015-0205 en disant que... c'est 2015-0204, pardon. Et donc, il dit effectivement que tu peux faire un silent downgrade vers RSA client. Donc, en fait, cette faille, elle est entre guillemets publique depuis janvier et d'après l'advisory, elle a été reportée en octobre 2014 par l'équipe de l'INRIA qui fait des méthodes formelles sur TLS. C'est aussi un point intéressant dans cette faille, c'est que ça a été découvert par, entre guillemets, une preuve du protocole TLS qui est réalisé par une équipe de l'INRIA. C'est peut-être la première fois que les méthodes formelles trouvent un bug dans quoi que ce soit d'utile.
Bon, et en ce qui concerne la remédiation, c'est comme d'habitude, on patch ?
Bah, y a pas grand-chose à faire d'autre. Globalement, tu peux probablement faire des tests des signatures réseau. Parce qu'en fait, la négociation des algorithmes, elle se fait dès le début de la connexion et il est possible que ça soit dans une partie qui soit encore en clair.
Je confirme.
Donc, tu dois pouvoir faire une signature IDS qui détecte un downgrade de connexion. Mais c'est quand même plus simple de patcher.
De toute façon, maintenant, patcher OpenSSL, on a l'habitude.
C'est clair que les procédures sont rodées.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut !
Salut !
Salut !